Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 125, mercredi 15 mars 2016. Il est 14h05. 2016, n'importe quoi, 2017. Christophe Roland au micro, Gérald est ici, Jean-Marc Galera également. Il est présent ces jours-ci sur les scènes lyonnaises à l'Espace 44 pour la pièce. Non, ce n'est pas une pièce en fait, pour l'adaptation du texte d'Albert Camus de 1956, le texte La Chute. Adaptation faite par Régis Guérard. Nous le saluons. Jean-Marc Galera nous en dira certainement un mot. Et donc, cela a lieu tous les soirs à 19h30. Et pourquoi est-ce un peu tôt comme ça? Eh bien, parce que l'Espace 44, nous pouvons également les saluer. Saluer surtout André Sanfratello. Excellente idée de leur part. Programmer un festival Albert Camus qui a commencé donc hier, mardi 14 mars. Qui se terminera ce dimanche 19 mars. Deux pièces. La première, La Chute. Et la deuxième, L'Étranger. Ce ne sont pas des pièces, mais justement, on en parlera. Ce sont plutôt des textes. Enfin, bref. 19h30, c'est pour Jean-Marc Galera. 21h, c'est pour L'Étranger. Commençons en musique. Gérald nous a trouvé un titre tout à fait camusien et c'est très bien. Vous nous écoutez sur Radio Canu, c'est le 102.2 de la bande FM et sinon vous le faites aussi sur internet, radiocanu.org. On commence avec de la musique et on se quitte à 15h comme toujours.
J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour, recroquevillés dans l'obscur du regret. Des gens qui, ayant assez de mourir à petit feu, en viennent à s'immoler. Et ces papiers, monsieur, s'il vous plaît, incessants, et c'est l'irrespect de l'humanité des gens qui ne sont pas blancs. Et c'est le regard qu'on ne porte même plus à notre semblable, et c'est la dignité même qui devient une valeur. Je t'aime. J'aimerais ici entendre le souffle du soleil parler le langage de l'aube naissante, la promesse de tous les lendemains qui chantent en chœur. J'aimerais t'en dire c'est bientôt fini à toi qui hurle à la lune ta souffrance, la tendresse de tous ceux qui n'ont deuil que celui du cœur. Des gens qui perdent lentement leur avenir à force de se tuer au labeur. Des gens qui paient content ce que d'autres ont commis comme erreur. Des gens qui pleurent leurs rêves tués au grand jour.
Hey. Gérald, ça se termine de manière assez abrupte. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous, chers auditrices, chers auditeurs.
Il y a également
bonjour,
Isaac
chers invités.
Bonjour. Salut tout le monde.
Qui vient d'arriver.
Donc Gérald, qu'est-ce qu'on écoutait à l'instant?
Donc on écoutait Abdal Malik, rencontre Albert Camus, L'art et la révolte. C'est un extrait qui joue avec un orchestre. Répétition avec orchestre, mais je n'ai pas plus d'informations pour l'instant.
Les informations, moi j'en ai peut-être d'autres à donner, quoique j'avais été très complet. Non, j'avais peut-être manqué ce terme-là. Dans le cadre du festival Albert Camus, La Chute est donnée par le Théâtre de l'Accalmie. C'est donc du 14 mars, c'était hier mardi, jusqu'au 19 mars dimanche. C'est donné à 19h30 en soirée. Ce sera à 15h, dimanche. Et donc c'est donné cette chute de 1956 d'Albert Camus. Je ne sais pas comment qualifier ça, récit, roman, enfin essai, fiction, c'est assez difficile. En tout cas, l'adaptation, il y a une adaptation qui a été faite, ainsi qu'une mise en scène par Régis Guérard, et le comédien sur scène, qui est tout seul, c'est Jean-Marc Galera, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Galera.
Eh bien bonjour à tous.
Alors, premier temps de l'émission, hein, normalement Gérald, c'est comme ça que ça marche depuis, on va fêter un anniversaire, non? Bientôt, on va pas tarder, ça fait quoi, 4 ans, 4 ans d'antenne?
4 déjà,
ans
déjà.
Ah, il me semble, c'est bien ça. Donc pourriez-vous bien brosser un peu votre portrait, qu'est-ce qui vous a mené de Grenoble, je crois, jusqu'à Lyon, en passant par tout un tas d'endroits divers? Pourriez-vous peut-être revenir à un peu de scolarité? Quand est-ce que le théâtre s'est déclenché? Est-ce un professeur
Voilà, ben vous croyez pas si bien dire. Je pense qu'il faut que je remonte jusqu'à la classe de 5e. Où j'ai eu la chance, je viens d'un milieu très très modeste. Et c'est pour ça que je dis souvent, ben, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Et puis d'y rencontrer des profs, des personnes qui m'ont tiré vers le haut.
Des Louis Germain, on peut dire, c'est ça?
Voilà, comme pour Albert Camus,
c'est
effectivement.
Ça, oui.
Et des gens qui m'ont tiré vers le haut et qui m'ont permis d'ouvrir d'autres horizons que ceux de mon HLM de l'époque. Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là. Et en particulier en classe de 5e, un prof de français qui un jour, Monsieur Legrand, je me souviens très bien de son nom, qui un jour est venu me voir à la sortie de la classe et il me dit eh ben écoutez Jean-Marc, si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous lisiez ce livre là, puis vous me direz ce que vous en pensez. Et il me donne La Peste d'Albert Camus. Je me suis senti investi d'une sacrée mission.
En cinquième, c'est rude.
Ah ouais. Je l'ai lu. En fait, ça se lit très bien. Non, en cinquième, c'est le langage est très simple. Hein. En plus, il y a une vraie histoire qui se suit. Et quand je lui ai rendu le livre, je lui ai dit, bon, écoutez, j'ai l'impression que Camus ne parle pas vraiment de la peste, mais qu'il parle plutôt de la guerre, ou c'est une sorte de métaphore. Ah, il m'a dit, c'est bien. Gardez le livre. Et je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Donc ça a été peut-être un déclencheur chez moi. Et puis la rencontre avec un prof de lettres aussi en troisième, qui m'a emmené pour la première fois au théâtre. Ainsi que toute la classe d'ailleurs. Et là, ça a été le choc, la révélation, si je peux dire, parce que ce qui m'a frappé, c'est le travail des acteurs. Je me suis demandé, et ça a un lien avec la chute, vous allez voir, je me suis demandé... Je crois que c'était l'avare de Molière. Bon, bref, alors comme tous les jeunes, évidemment, à cet âge-là, j'ai fait le con avant que le spectacle démarre, j'ai fait rire ma copine, qui a fait rire l'autre, ça devenait l'hystérie, enfin bon, vous voyez le truc. Mmh. Et puis le spectacle démarre, bon, ça s'ouvre sur une image, et puis ensuite on a des personnages vivants dedans. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est le travail des acteurs. Et à la fin, je suis resté scotché, comme on dit, dans mon fauteuil un moment, en me disant, mais comment font-ils pour mentir aussi vrai? C'est-à-dire, ils m'ont fait croire, alors que c'est leur métier, ils m'ont fait croire à leur tendresse ou à leur cruauté, à leur amour ou à leur haine, à leur joie ou à leur peine, à leurs larmes parfois. Donc voilà, ça a été ça, le déclencheur en tout cas. C'est ce qui m'a donné envie de faire du théâtre. J'ai donc, grâce à ce prof et avec quelques copains, dès la classe de 3e, on a créé 3 pièces. La Cantatrice Chauve de Ionesco, Le Guichet de Jean Tardieu, et puis Le Commissaire et Bon Enfant de Courteline. Et ensuite, j'ai été un boulimique toute ma vie. Donc j'ai fait beaucoup de théâtre amateur, au lycée, à la fac. Et ma formation, c'est une formation de prof de maths. J'ai enseigné... Pas très longtemps, parce que le théâtre...
Ça, c'est très bien. Il y a des gens très bien qui enseignent, hein, il semble.
Et un jour, voilà, en janvier 84, j'ai franchi le pas, j'ai quitté l'éducation nationale pour me consacrer entièrement au théâtre. Voilà, donc ça fait plus de 33 ans maintenant.
Bah vous avez bien fait, hein, Gérald. On a vu la première hier de cette série, voilà, de représentations pour la chute.
C'est à l'espace 44, dans une salle comble. C'est bien. Alors c'est une petite salle, mais elle était comble. Là, et puis un sacré public, une belle écoute et beaucoup d'applaudissements. Parce que c'était très mérité.
Merci.
Un moment très fort.
Gérald, restons encore un peu sur un portrait de Jean-Marc Galera. Est-ce qu'il vous est donc, comment dire, est-ce fréquent que vous jouiez des seuls en scène, on peut nommer ça ainsi? Il me semble que sur une vidéo que j'ai pu consulter, à la fin, il y a différents noms de pièces qui apparaissent et il me semble que ce sont d'autres seuls en scène. Le gardien de Pinter, je crois.
Ah non, c'est pas un. Non, le gardien, il y a 3 personnages.
Alors c'est quelle autre pièce?
Non,
il y a
l'Orla.
L'Orla,
c'est le seul autre solo que j'ai fait. Mais pour vous expliquer comment je suis arrivé à des seuls en scène, je parlais de prof, de l'école. Vous savez, la vie, je crois qu'elle est faite de rencontres. Alors, il faut être ouvert et disponible, hein, aux rencontres. Hein, parce que, évidemment, si on ne l'est pas, on rencontrera pas grand monde. Et voilà, on n'en profitera pas. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, d'être toujours émerveillé des rencontres que je pouvais faire. Et ça a été le cas avec Régis Guérard, le metteur en scène de La Chute. Je l'ai rencontré au Festival d'Avignon, où je jouais des pièces comiques à l'époque. Et il est venu me voir, il m'a dit « Oh, toi, tu mérites mieux que de faire juste de la comédie. Si tu veux bien, tu devrais te coltiner un seul en scène. Je veux bien te mettre en scène et ça va t'apprendre beaucoup de choses. Mmh. » J'ai demandé à réfléchir, j'ai réfléchi, ça me faisait peur évidemment, j'ai réfléchi un an, on s'est vu l'année d'après, je lui ai dit d'accord. Et là il me dit, bon très bien, alors on va travailler sur la folie. Ouh là là, je vais réfléchir, hein. J'ai réfléchi encore un an, et puis l'année d'après je lui ai dit, bon bah d'accord. Et c'est là qu'il m'a proposé le Horla, de Maupassant. Et cette expérience de travail avec lui, c'est, comment dire, moi pour faire bref, je dirais que c'est une histoire d'amour dans le travail. C'est-à-dire une telle complicité, une telle force dans le travail qu'on a eu envie de recommencer. Alors le Horla, pour moi, c'est un spectacle fétiche parce que à l'époque, j'avais créé un théâtre à Grenoble qui est devenu un petit théâtre municipal qui fait 160 fauteuils, mais qui est très bien équipé, des grilles sur moteur, etc. Un vrai théâtre qui s'appelle le Théâtre de Poche de Grenoble. Et je l'ai dirigé pendant 4 ans, et au bout de 4 ans, j'ai voulu repartir sur les routes, parce que je commence à me scléroser, moi, à passer tout mon temps à Grenoble et dans ce théâtre, donc j'avais envie de repartir sur les routes et de tourner. Donc je l'ai quitté en créant le Horla avec Régis. Et ce Horla, quand je dis c'est un spectacle fétiche, c'est parce que je l'ai tourné plus de 650 fois, donc il m'a permis vraiment de prendre mon vol. Et puis, ça c'était en 92 le Horla. Et en 94, évidemment, on avait envie de récidiver. Et l'idée c'était Amok de Stéphane Zweig.
Il apparaissait.
Simplement, quand Régis avait préparé il a préparé deux adaptations à ce moment-là d'Amok. Et c'était une soirée chez lui à Paris. J'y étais avec mon directeur technique, mon régisseur. Enfin, c'était un vieux copain qui faisait la régie avec moi. Voilà. Et on était chez lui et on a lu à haute voix les deux adaptations d'Amok. Il y en avait une pour homme seul et une pour trois personnages. Et à la fin, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui ai dit, écoute, moi, il n'y a pas photo, c'est celle à trois personnages, je trouve que formidable, bref. Ah, il me dit, mais alors qu'est-ce qu'on va monter comme solo? Parce qu'on n'a pas les moyens de monter une pièce à trois personnages. Mmh. L'adaptation d'Amok se situait dans le port de Naples, dans un bar. Son adaptation, il l'a située dans un bar dans le port de Naples. Donc Mexico vous voyez City tout de suite les associations d'idées qui se sont faites.
Mexico City, non ?
Très très vite, on a commencé à parler, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme solo. Alors un solo, alors on pensait, on réfléchissait, et association d'idées, mais il n'y a pas une histoire de Camus qui se passe dans un port. Oui, la chute, oh mon Dieu, je ne l'ai pas, me dit Régis, je n'ai pas dans la bibliothèque, zut. C'était, je ne sais pas, ça devait être 5h30 et la librairie ferme à 6h. J'ai couru au but de Chaumont, je suis rentré dans la première librairie, j'ai dit, vous avez la chute, c'était tout en haut, je suis monté sur l'échelle, et j'ai pris les trois exemplaires qu'il y avait.
Sans basculer l'échelle.
Et le soir même, on lisait la chute. Enfin, j'ai lu la chute à haute voix pour Régis et puis le régisseur. Et ça a été unanime. Voilà, ça nous a émus, ça nous a beaucoup fait rire.
Ah oui, c'est drôle.
Voilà. Drôle. Et ça nous a frappé par l'intelligence de ce texte. Et voilà, puis moi ça m'a surpris parce que je connaissais pas ce texte de Camus, alors que j'aime, comme vous l'avez compris, je suis plutôt camusien, même sans être universitaire plus, hein, mais je connaissais pas. Il est assez étrange ce texte, parce qu'il est très obscur, alors que ses autres œuvres sont plutôt lumineuses. Et là il est très ambigu et obscur. Je trouve que c'est les ténèbres et le brouillard d'Amsterdam qui règnent sur cette œuvre. Et en tout cas tout ça nous a emballé et on est parti là-dessus, voilà, et en 94 la création.
Donc c'est un spectacle qui a beaucoup aussi la chute. Même le Horla 690 fois et la chute aussi.
Mais la chute, oui, je dois être à 280, quelque chose comme ça. Oui. C'est un peu moins parce que c'est évidemment le Horla. L'avantage, c'est qu'on touche les scolaires dès la quatrième. Donc on touche un public très, très large. La chute est plus compliquée, c'est pour les lycéens, il y a une dimension philosophique qui est pas forcément toujours évidente. Donc
très travaillée, ciselée et parfois difficile.
Oui, puis où est-ce qu'il veut en venir ? Le problème de la chute, c'est qu'est-ce qu'il veut dire et où veut-il en venir ?
C'est ça, ça bascule ton permanence.
Donc
en fait,
on ne sait pas trop.
Restons sur le portrait de Jean-Marc Galera. Et pourtant, je m'apprête à dire, Gérald, en fait, on pourrait presque faire un bond dans l'émission, arriver en fin d'émission. Les projets à venir, je crois qu'il y a un projet qui pourrait justement revenir à une question à vous poser maintenant. C'est, vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez indiqué que vous alliez prochainement jouer une pièce de Molière, Tartuffe. Alors là, question donc que je vous posais un peu tout à l'heure, c'est à plusieurs, le hors-là.
Tartuffe.
C'est à plusieurs, oui. Tartuffe. Vous jouez fréquemment, donc, avec d'autres acteurs aussi, d'autres comédiens. Oui, c'est même d'ailleurs plus fréquent que les seuls en scène.
Ah ben bien sûr. Oui, vous l'avez compris. Ben après, moi, dans mon répertoire, j'ai mis en scène Les Caprices de Marianne, de Musset, Antigone, Andromaque, ça c'est pour les classiques, Les Sept Jours de Simon Labrosse de Carole Fréchette pour le contemporain, ça c'est une pièce merveilleuse que j'aimerais bien pouvoir jouer ici, c'est une pièce sur le chômage, c'est une sorte de fable poétique et burlesque sur le chômage et la difficulté de trouver sa place dans la société de consommation. C'est vraiment extraordinaire, cette pièce.
Théâtre français,
monté
surtout
Poison. Non, en 2014, j'ai monté une pièce de Lotte Wekemans, une auteure néerlandaise qui s'appelle Poison, qui met en scène un couple qui s'est séparé après la mort du fils. Donc le point de départ, c'est la mort du fils. Et ils se retrouvent 7 ans après dans le cimetière pour une histoire de poison. Enfin bon, c'est un prétexte. Mais c'est un prétexte à libérer la parole, c'est-à-dire dire tout l'indicible de l'époque. Tout ce qu'on ne peut pas se dire devant l'atrocité de l'événement. Voilà.
Vous interprétez également ou vous êtes...
Non, là je mettais en scène. Après, dans Les Caprices de Marianne, je jouais. Enfin bon, bref. Et je travaille beaucoup avec d'autres metteurs en scène ou d'autres compagnies. C'est le cas pour Tartuffe. Je travaille avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Vincent Brizat, qui est quelqu'un qui vient vraiment du théâtre populaire, au sens villardien du mot. Et d'ailleurs, il était dans le dernier carré des prétendants au Tréteau de France, à la direction des Tréteaux de France, la dernière fois. C'est Robert Rinucci qui est directeur actuellement. Mais Jean-Vincent Brizat était dans le dernier carré, vraiment. Donc, c'était des dossiers assez proches. Et moi, je travaille très souvent avec lui. Et en l'occurrence, sur Tartuffe. Il m'a proposé souvent des rôles dans les pièces de Molière, mais pas que, d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de jouer et d'interpréter les grands rôles de Molière grâce à lui. Dont Tartuffe, qui a été créé au mois de novembre, l'année dernière. Donc là, la semaine prochaine, c'est les 3 dernières de la saison. On reprendra le spectacle en tournée à partir de septembre.
Et vous reviendrez nous voir, d'ailleurs, à cette occasion.
Non, j'aimerais bien qu'il faudrait qu'il joue ici, mais je ne suis pas certain que les dates se rapprochent de Lyon.
Donc vous passez allègrement de la comédie et burlesque à la satire et au...
Et du classique au contemporain, le drame, voilà.
Tous les genres, toutes les époques.
Le premier spectacle qui m'a permis de dire zut à l'éducation nationale, si je puis dire, c'est-à-dire de claquer la porte et de quitter l'éducation nationale, qui est rare, de quitter l'éducation. On se met en disponibilité souvent, voilà. Moi, j'ai pris ce risque-là. Bon, j'étais jeune, je dis pas que je le referais d'ailleurs, parce que là, à l'âge que j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, j'ai d'autres choses, etc. Mais à l'époque,
le contexte était plus facile.
J'avais toute l'énergie en moi et je voyais que les spectacles que je jouais étaient semi-professionnels, qu'ils tournaient beaucoup, qu'ils étaient reconnus pour leur qualité, que des metteurs en scène, les gens s'intéressaient aussi à moi. Donc j'ai fait ce choix à ce moment-là. Le premier spectacle qui m'a permis de vivre de ce métier de comédien, c'est un spectacle de clown. Vous voyez, donc j'ai fait du clown aussi, c'était du théâtre clown.
C'est une bonne école,
Oui, d'ailleurs, c'était l'époque du renouveau du clown, c'était les années 80, et le clown se renouvelait, on avait le clown de théâtre qui arrivait. Aujourd'hui, c'est un vrai langage, maintenant on voit beaucoup de spectacles de clown, de théâtre.
Et des écoles,
mais à l'époque, c'était tout neuf, il y avait des gens comme Motus et Payas qui m'avaient beaucoup marqué, qui venaient du Cirque Cny, qui avait un duo...
Plume n'existait pas
encore. Plein de poésie, non, pas Cirque Plume n'existait pas encore. Donc voilà, pas tout ça pour vous dire que j'ai fait
la gauche, une génération Jack Lang quand même.
Oui, alors
je vous sais a permis de quitter l'éducation nationale.
Je suis plus critique. Alors là, c'est autre chose, on va déborder hein, là, forcément si on je suis plus critique. Je vais essayer de faire bref. Pour lancer la polémique et je reviendrai si vous voulez en discuter, mais les années Lang, il y a la façade, la vitrine, c'est-à-dire ah ouais, c'est super 1% du budget et puis on fait des lieux partout, des lieux de diffusion etc. Le revers de la médaille, c'est qu'il a demandé à ce que la culture soit gérée comme une entreprise. Et là, les artistes, ils sont relégués au dernier rang. Le rapport entre les artistes et le public, il est décidé par des tonnes d'intermédiaires, des formations, il y a des formations universitaires, des DESS, etc. C'est plein de gens formidables qui aujourd'hui bouffent l'essentiel du budget, donc enfin dans le spectacle vivant. Et vous comprenez la discussion qu'on pourrait avoir. Voilà, c'est le revers de la médaille.
Clown, je pense à ça comme ça, Gérald. On aurait pu voir Bonaventure Gacon sur scène. On aurait pu le voir au théâtre des Célestins. Rappelle-toi, Marc Lesage nous le présentait comme un clown trash dans la pièce Les Gravats, qui est encore donnée cette semaine dans la petite salle de la Célestine. Et puis finalement, c'était Clotilde Moulet qui l'avait.
Un très bon spectacle dont on a parlé.
On l'a vu, la semaine dernière. Vous connaissez Bonaventure Gacon? Moi, je ne connais pas ce clown trash. Non.
Je dois aller voir Les Gravats à la Célestine, ça passe encore, donc c'est
très bien. Encore jusqu'à...
C'est justement du profond, froid,
alors, c'est
burlesque,
c'est
drôle.
C'est à 20h30, est-il possible de commencer à avoir la chute à 19h30, puis après,
le spectacle dure 1h10, finit à 8h.
Ça va pas être possible. Alors, il faut choisir. Dimanche, ce sera à 15h, je crois qu'on est presque prêt, Gérald, à évoquer la chute plus précisément.
Oui.
Alors, transition, qu'est-ce que...
J'ai une dernière question peut-être avant qu'on passe. Le théâtre de l'Accalmie. Je trouve que c'est un très bel intitulé pour un théâtre, l'Accalmie. Je suis sûr que c'est une antiphrase. Non, ça vient d'où ce nom? Alors, ça existe depuis quand?
Ce n'est pas ma première compagnie. J'ai créé plusieurs compagnies dans ma vie professionnelle.
Il y a celle du Loup, je crois.
C'est avec la compagnie du Loup que j'avais créé La Chute. Mais il se trouve que, dans les parcours, vous savez, moi je fais les choses avec les rencontres et avec beaucoup d'amour. Et je compagnonne depuis longtemps et sur scène et dans la vie avec une comédienne qui s'appelle Annette Benedetti, que vous aurez l'occasion de voir dans Zoom de Gilles Granouillet à l'Espace 44 à la fin du mois, que je vous encourage vivement à venir voir.
On l'invitera à elle cette fois.
Je serai là aussi.
Vous reviendrez.
Fin mars, sûr. On a Catherine Fèvre, fin mars, tu me disais.
On verra.
Bon.
Depuis quelques années, on compagnonne ensemble et on a concrétisé, si vous voulez, ce compagnonnage qui était informel pour l'instant. On l'a concrétisé en créant le Théâtre de l'Accalmie. Donc j'ai arrêté la compagnie du Loup et je me consacre au Théâtre de l'Accalmie qui est une compagnie que nous avons créée dans la Nièvre, dans le sud de la Nièvre, dans un territoire rural très déshérité où il n'y a rien, il n'y a pas de salle de spectacle, c'est très difficile. Et il y a tout à faire. Et ça nous donne un élan de jeunesse, si je puis dire, parce que ça donne du sens, à notre engagement théâtral.
Oui, mais alors le choix de ce terme, Gérald,
L'Accalmie. Alors l'Accalmie, c'est venu parce qu'il y a comme une espèce de pause dans notre vie, comme si c'était moins la bagarre qu'avant. Et le mot d'Accalmie vient d'une pièce en fait que nous avions montée avec Annette et puis une autre équipe que j'avais mis en scène dans laquelle je jouais aussi, qui s'appelle Accalmie passagère, qui était une comédie de mœurs contemporaine d'un auteur qui s'appelle Xavier Daugray. Et il y avait des photos dans une petite maison que nous avons en commun, donc on avait affiché les photos. Et un jour, alors qu'on cherchait les mots, je tombe sur cette photo et je dis mais pourquoi pas théâtre de l'Accalmie? Et
ça sonne bien, c'est une belle trouvaille.
On a dit, c'est parti.
Gérald, une autre trouvaille, L'Irresponsable de Maxime Le Forestier.
Pas tout de suite.
Non, pas tout de suite.
On va peut-être passer, on va passer au Tête Raide, dans la gueule du loup, un morceau très court, on n'a que des morceaux de 2 minutes. On écoutera la vie d'un homme tout à l'heure.
Aussi, tu proposais.
Albert Camus, c'est lié aux événements d'Algérie, comme on disait de manière très pudique dans les manuels il n'y a pas si longtemps. Maintenant on parle de guerre, il était temps. Donc voilà, c'est un lien et c'est un texte de Kateb Yassine qui parle des massacres des Algériens d'octobre 61.
Allez Gérald, c'est lancé.
C'est parti.
Un peu français. Tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir. De vomir à la face du peuple de la commune, les corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu te taire?
Les Têtes Raides dans la gueule du loup, 2 minutes 18. Je ne sais pas de quel extrait c'est tiré. Quoi qu'il en soit, c'était donc un hommage aux Algériens jetés dans la Seine le 17 octobre 61. Le fameux livre d'Aninx, Meurtre pour mémoire. Et bon, les chiffres, la querelle des chiffres est toujours là. Nancy Houston aussi en parle dans un livre.
Ouais, mais alors, lien avec la chute,
hein, il est... Bah, c'était pour parler aussi, oui, de voilà, une allusion à la guerre d'Algérie quand même, puisque il y a une grande histoire
avec
complexe.
Camus, hein,
Camus est natif.
Oui. Camus est natif, et puis, voilà. et puis, quand les événements, comme on dit, sont arrivés, enfin non, bon, quand la guerre a commencé en 54, Camus a toujours eu une position de pacifiste. Enfin, il est contre la violence, quelle qu'elle soit. Ouais. Voilà. Donc, c'est un principe. Et à partir de là, il était dans une situation extrêmement délicate parce que il avait du mal à soutenir la colonisation, si vous voulez, et puis il avait du mal armée, aussi à soutenir la lutte armée du FLN. Ouais. Donc, il était entre les deux feux.
Il a le cul entre deux chaises, comme on dit vulgairement, et on voit très bien ça dans la fiction qui est passée il n'y a pas très longtemps, quelques mois sur Arte, de Fraisse, où on voit bien quand il est interpellé après, la réception.
Avec Stéphane Fraisse, et également Anouk Grimbert, Camus tout court, c'est le nom de ce téléfilm.
Pour sa vie, pour apprendre des choses, si ça donne envie de lire, aussi, de s'intéresser au personnage, et il est pris vraiment agressé violemment par des membres du FLN qui viennent agresser après sa remise du prix Nobel. Voilà.
Pour en savoir plus, auditeurs, sur Albert Camus, eh bien, assistez donc à ce festival Albert Camus avec deux pièces, La Chute, programmée à 19h30 tous les soirs, ce soir, demain, jeudi, vendredi, samedi, dimanche non, dimanche ce sera à 15h, et autre pièce également, L'Étranger de la compagnie La Lune à l'envers, avec Benjamin Ziemski, il sera seul sur scène également, c'est à 21h, donc donné jusqu'à la fin de cette semaine.
C'est une remarquable adaptation, parce que c'est pas facile d'adapter L'Étranger, et je trouve que c'est très 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 bien fait.
Et vous, Jean-Marc Galera, c'est très aimable à vous de parler de cet autre spectacle L'Étranger. Vous êtes avec nous pour parler plus précisément de cette chute de Albert Camus, 1956. Roman, hein, enfin, ou récit, je ne sais comment nommer, que vous avez donc adapté avec
un récit. On dit que c'est un récit. Alors, c'est un récit à la première personne. C'est ce qui nous a aussi tout de suite encouragé à l'adapter. Ça aurait pu être du théâtre. On a l'impression que c'est un monologue. Mm-hmm. En fait, c'est un soliloque avec un interlocuteur muet. Voilà la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui parle, mais on comprend bien qu'il s'adresse à un autre personnage qui lui poserait des questions. Notre idée pour adapter, ça a été, s'est imposée assez vite, c'était de considérer l'interlocuteur muet comme étant le public. Après, la difficulté de l'adaptation, c'était de redonner, on a toujours été, si vous voulez, Régis et moi, on est assez classique, platonicien, je dirais, aristotélicien, mmh. là-dessus, c'est-à-dire unité de temps, de lieu et d'action. Donc on cherchait comment ce récit qui se passe en 5 jours, dans des lieux différents, comment le réunir en un seul moment, dans un même lieu. Voilà, donc on a travaillé ensemble, lecture, beaucoup de lecture à table du bouquin, et au fur et à mesure des lectures, on rayait, on enlevait, on, voilà. Et ensuite, on a réagencé les choses, et vous avez pu constater qu'on démarrait par la fin.
Oui, c'est, de l'œuvre. Le texte sous les yeux, d'ailleurs, c'est bien qualifié, il est bien indiqué, la chute, récit. C'est bien indiqué en sous-titre. 1956, c'est donc les tout premiers mots. Puis-je, monsieur, vous proposer mes services sans risquer d'être importun? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside aux destinées de cet établissement. Et donc, il continue un peu à parler du tenancier du Mexico City. Et vous, quand vous commencez, c'est plutôt la dernière partie, c'est la fin, ce sont les derniers moments. Donc, on en parlait tout à l'heure, il propose de.
Le personnage reçoit. Parce qu'en fait, dans le récit lui-même, le récit démarre au Mexico City. Dans un bar où le personnage, Jean-Baptiste Clamence,
il donne son nom,
voilà, prêche, si je puis dire, enfin voilà, il essaye de convaincre les gens qui sont là. Donc il rencontre, dans le récit, il rencontre l'interlocuteur dans ce café, c'est pour ça que ça démarre comme ça, est-ce que je peux vous importuner ? Et puis
il le voit 5 soirées. La dernière soirée commence avec: je suis confus de vous recevoir couché. Ce n'est rien, un peu de fièvre que je soigne au Genièvre. J'ai l'habitude de ces accès, du paludisme, je crois, que j'ai contracté du temps que j'étais pape. Et là vous enchaînez donc
reçoit.
Ça c'est donc la 5e soirée. Vous commencez par ce.
Voilà,
par ce moment-là.
Une certaine complicité s'est tissée entre l'interlocuteur muet, et c'est-à-dire le lecteur en l'occurrence, et puis le personnage. Et le personnage le reçoit chez lui parce qu'il est malade et couché, fiévreux. Nous nous sommes dit, eh bien tiens, démarrons par la fin, il reçoit, alors mais est-ce qu'il est chez lui ou ailleurs?
Et non, on a imaginé. Et il ne reçoit pas, c'est ça, vous dites aussi. Enfin, vous nous avez dit tout à l'heure,
voilà,
il ne reçoit
nous,
pas.
Il reçoit pas. Nous, on s'est dit, tiens, on l'a imaginé, le personnage, sous un pont, puisqu'il est beaucoup question de pont, et de la scène d'ailleurs. Voilà un lien aussi avec la chanson. On l'a imaginé sous un pont, comme un clochard. Et que les spectateurs seraient des badauds qui passent et que le personnage alpague, comme ça pour ensuite les...
Vous êtes d'ailleurs bien grimé en clochard, hein. On en parle, Gérald, de l'œil. Vous avez un œil droit qui est victime, qui a été manifestement crevé, hein, je crois. Il y a donc, vous avez indiqué le subterfuge, enfin la technique, un peu de colle, un peu de cire, enfin du moins.
Oui, parce que
là, vous avez également des, je ne sais pas comment on nomme, ce sont les fameuses mitaines, c'est ça?
Les mitaines.
Ces gants dont les doigts, enfin du moins sans doigts. Et en plus, vous recroquevillez, vous repliez votre auriculaire, c'est assez. Puis vous avez. C'est toujours un peu gênant d'employer ce terme, une sorte de dégaine d'ours, quoi. Et là, d'ailleurs, vous me semblez très fort policé, très civilisé, mais alors, vous toussez un peu, vous crachez, et la voix, c'est stupéfiant. Ouais. Il y a un travail sur la voix, la voix auditeur que vous entendez à l'instant de Jean-Marc Galera, ça n'est pas sa voix sur scène.
Non, ça n'est pas la voix de Jean-Baptiste Clamence.
Voilà. Merci beaucoup, c'est très
charisme
très
sur scène.
Mais c'est ahurissant d'arriver à cet effet-là.
Le seul en scène, c'est ça aussi, dégager et prendre toute l'attention et faire peur parfois même, et on imposait quoi.
C'est
on sent bien ça au début du spectacle,
fonctionne.
On est presque gêné, on sait pas trop comment regarder cet avocat.
Ce personnage, l'œil, vous savez, ça c'est né pendant le travail. Hors antenne, je vous parlais tout à l'heure du processus. Il se trouve qu'on a donc travaillé à table d'abord sur l'adaptation, et puis un jour, il fallait bien passer sur un plateau de théâtre. Donc on nous a ouvert un théâtre, nous sommes allés sur le plateau et on a commencé à travailler sur le plateau. Donc on a passé la journée à chercher, le metteur en scène me disait « bon bah tiens essaye », on imaginait bien que j'étais couché, mais on disait « bon bah alors », il me disait « essaye, lève-toi, tiens prends ta bouteille, essaye de boire du genièvre, voyons, bon. » Bref, on a cherché toute la journée. On s'est couché là-dessus et le lendemain au café, on s'est retrouvé l'un en face de l'autre en train de touiller dans notre tasse comme ça, sans un mot, et le premier mot... On s'est regardé comme ça, et le premier mot de Régis, je me souviens, il avait une grosse voix, et il parlait un peu avec l'accent du midi, et il me dit « Jean-Marc, est-ce bien utile ?» C'est le premier mot le lendemain matin. Et là, je lui ai dit « Non, je savais de quoi on parlait. » Vous voyez, quand je vous disais que c'est une histoire d'amour dans le travail, c'est parce que dans le hors-là, on a tissé une telle complicité que sur les spectacles suivants, on n'avait quasiment plus besoin de se parler pour aller dans le même sens. Et voilà. Et ça a été comme ça. Donc on s'est dit, inutile de répéter dans un théâtre, on va répéter dans ma chambre à coucher. Bon. Et c'est ce qu'on a fait. On a travaillé dans la chambre à coucher. Et un jour, il me dit, bon, bah tiens, ce serait bien quand même que. Essaye de. Déguise-toi comme t'as envie. Fais ce que tu veux. Et là, je suis arrivé, ça m'a pris comme ça, parce que je pensais clochard. Je suis arrivé un peu comme le capitaine, c'est le capitaine Silver, non? Dans l'île au trésor, vous savez voilà,
Long John Silver, je crois.
Hein, c'est ça, avec celui qui boite,
une jambe alors, de bois,
qui a une jambe de bois, un œil crevé, et le perroquet sur l'épaule. Je suis un peu arrivé comme ça, puis il commençait à parler comme ça. Et Régis m'a dit, oh, génial, tu gardes la voix et tu gardes l'œil, hein. Et on était parti là-dessus, on a développé l'idée, effectivement. Alors la voix, évidemment, elle capte, elle vient des profondeurs de... Je disais que cette histoire est très sombre et très obscure. On a l'impression que c'est un plongeon dans l'enfer. Et l'enfer bourgeois, comme dit Clémence, justement. Et donc cette voix caverneuse, c'est une voix qui nous attire, je crois qu'elle accroche tout de suite les spectateurs et voilà, elle les retient. Et l'œil, de la même façon, finalement, ce personnage avec cet œil unique est plus extra-lucide que s'il avait les deux.
C'est ça. Et le reste du portrait, visuellement, pourrait ressembler aux derniers autoportraits de Rembrandt, pour la robe de chambre, quand il se déguise un peu, qui se regarde dans la glace.
Il y a eu un travail, vous avez peut-être remarqué, avec les éclairages. Oui. Bon, là, j'ai un peu adapté, mais à l'époque, on avait créé dans un grand théâtre, et il y avait énormément de finesse dans la lumière. J'essaye d'en garder l'esprit, mais cette lumière est une lumière, effectivement, qui fait penser à des tableaux. J'aime bien que vous parliez de Rembrandt.
Caravage,
il est question de Van Eyck dans la pièce. Oui. Mais pour nous, il y a vraiment...
La bougie.
Voilà, Caravage, j'aime beaucoup, parce qu'il y a cette lumière assez franche. Et...
D'ailleurs, oui, la scénographie lumineuse alterne des moments de lumière assez douce, assez pénétrante, des lumières assez violentes qui remettent le comédien face au public, comme s'il nous rentrait dans l'art, quoi, un peu.
Et cette pièce, bon, si vous souhaitez parler encore, je vous en prie volontiers, mais j'aurais deux petites questions. Vous avez dit tout à l'heure, on ne sait pas très bien ce qu'elle dit. Moi, donc volontiers, je vous demanderai qu'est-ce que, selon vous, cette pièce dit. Enfin, cette pièce, disons ce spectacle. Et qu'est-ce qu'il vous dit à vous, quel lien vous avez développé avec cette pièce? Parce qu'il faut peut-être l'indiquer. Le metteur en scène dont nous parlons un peu, même beaucoup depuis le début de l'émission, Régis Guérard, n'est plus parmi nous depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est assez beau de continuer à faire le spectacle en indiquant bien mise en scène Régis Guérard. Moi, personnellement, je croyais qu'il était encore vivant. Et donc, c'est. Je vous en prie, enfin, c'est cette pièce. Mais vous souhaitiez parler à l'instant aussi, non? Rebondir.
Je voulais rebondir tout de suite. J'aurais pu faire basketteur, hein, tellement je prends les choses au rebond. Mais. je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'œuvre là, sur le cette suite. En fait, je crois qu'il faut revenir un petit peu à la genèse de cette œuvre dans l'œuvre de Camus. Camus a écrit L'homme révolté début des années 50 et il est extrêmement critiqué à ce moment-là par les temps modernes, Sartre et Janson et les journalistes qui entouraient Sartre. Il est violemment critiqué. Camus, puisqu'on le traite de philosophe pour classe terminale, c'est-à-dire c'est un amateur qu'il devrait laisser parler les professionnels. Donc il y a ça devient les frères ennemis, il y a un grand conflit, et il est très affecté, Camus. Il prépare une riposte littéraire. C'est la chute. Au départ, ça devait être une nouvelle qui allait clore le recueil « L'exil et le royaume ». Et puis, cette nouvelle, le personnage de Jean-Baptiste Clémence, c'était en quelque sorte Sartre que Camus allait caricaturer. Mais Camus est un grand écrivain. C'est pas par hasard qu'il a eu le prix Nobel,
un an plus tard. Oui.
Voilà. C'est un grand écrivain, donc il s'est posé quand même la question, il se dit, oui, mais si Sartre il m'accuse de ça, c'est peut-être qu'il faut aussi que je regarde de mon côté, peut-être que j'ai aussi des choses à me reprocher, des défauts, voilà. Et c'est ainsi que l'œuvre, la chute, la nouvelle va prendre de l'ampleur, va devenir ce récit où le personnage est double, il a plusieurs visages, il en a au moins deux tout le temps, il parle beaucoup de duplicité.
Et à la fois lui donc, il y aurait Sartre, en termes philosophiques d'opposition
voilà.
théorique.
Mais c'est aussi, et ça devient une œuvre universelle parce qu'elle parle de chacun de nous. Oui. Et j'essaye de répondre, du coup, le sens de l'œuvre est peut-être là-dedans, c'est-à-dire le fait que nous portons des masques. Camus est quelqu'un qui cherche la vérité toujours, je crois qu'il dit, je sais plus dans quel ouvrage, enfin il dit que ça doit être dans les carnets ou dans Nos, il dit je ne veux pas qu'on me mente et je ne veux pas mentir, voilà, je voudrais que dans la vie ne pas mentir et qu'on ne me mente pas. C'est peut-être ce qui guide une partie de ses choix dans sa vie. Mmh. Et je trouve ça très juste, très, très beau. Et là encore, il se dit, il nous peint un personnage qui nous ressemble et évidemment qui est plein de duplicité. La vertu cache parfois des vices.
L'enfer est pavé de bonnes intentions. D'ailleurs, il y a des passages très intéressants sur une relecture de la crucifixion. Il y a une dimension religieuse. Il parle de la débauche. On insiste parfois au déploiement d'une théorie des sept péchés capitaux revisités. Etc. Et c'est une sorte de Janus, ce personnage, un peu, on pourrait dire.
Complètement.
Aussi.
Complètement.
Ah ben,
c'est
son métier.
D'ailleurs, c'est son métier,
juge,
parce qu'un avocat, et puis un avocat peut défendre des causes perdues ou des causes vraiment dégueulasses. Et son but, c'est quand même de défendre son client, quand c'est un assassin, même quand c'est Total Fina après une marée noire.
Attention,
avocat d'affaires.
C'est un avocat qui souhaite défendre les nobles causes, la veuve et l'orphelin, mais c'est très bien dit dans la vidéo, c'est très bien repris dans le texte de Camus. Il est très bien dit, la veuve et l'orphelin, comme on dit, hein, je ne sais pourquoi, car enfin, il y a des veuves abusives et des orphelins féroces.
Ça, c'est bon. Et ça, c'est drôle. Oui, ça fait partie des moments drôles, ironiques, plein d'humour noir et de vérité, qui font un peu rire. Enfin, rire jaune, évidemment.
Oui, tout à l'heure je parlais de rire, et il n'y a pas d'éclat de rire.
C'est pas réjouissant non plus, on ne va pas dire que c'est réjouissant.
Non.
C'est pas léger, ça c'est
gravité. Il y a une gravité, ça c'est évident.
Qui donne à réfléchir, et qui fascine.
Le personnage de Jean-Baptiste Clamence ressemble par beaucoup de côtés à Camus, c'est-à-dire le succès,
auprès des femmes,
le personnage se définit comme un ancien avocat, à qui tout réussissait, qui brillait en société, et qui était très doué avec les femmes, c'était le cas de Camus aussi.
La définition du charme, c'est le fait...
Vision un peu étrange de la femme d'ailleurs, on va pas s'étaler là-dessus, mais c'était la journée des droits de la femme.
C'est le personnage qui est quand même l'assemblage des défauts de l'humanité, quelque part.
Il y a une forme de misogynie dans la vision des femmes.
Oui, mais je pense que c'est pas le cas de Camus, mais non, là il force le trait sur le personnage. Ah oui, mais pour montrer l'égoïsme. Vous savez, ce personnage, c'est aussi, je crois, un des sujets de l'œuvre, c'est on ne peut pas, l'homme ne peut pas aimer sans s'aimer lui-même, c'est-à-dire qu'on cherche d'abord à se faire aimer et à s'aimer soi. Il le dit d'une autre façon dans l'œuvre, il dit « Chaque homme exige d'être innocent à tout prix, même s'il faut pour cela accuser le genre humain ou le ciel. » Et regardez la vie autour de vous, regardez ce qui se passe continuellement. Chacun exige d'être innocent.
Voilà. Oui. C'est vraiment le message qu'on doit retenir de cette pièce. Au point où il a envie qu'il assiste à un truc qui le traumatise, il y a un déclic, avec des voix qui viennent, on va pas tout raconter. Mais il est au point de revouloir, revivre cet événement pour agir comme il aurait dû agir à l'époque.
Alors après, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette œuvre? Moi, je pense toujours à Camus, à l'ensemble de son œuvre. Camus, il cherche la lumière. Il cherche, vous savez, il disait, quand j'écris, je veux mettre, au centre de mon œuvre le silence d'une mère. Parce que sa mère, il a perdu son père très tôt, et sa mère était analphabète, et après la mort du père, en plus, elle s'est enfermée dans un mutisme fréquent. Et Camus est très attaché, évidemment, à sa mère, et il met le silence d'une mère. Ça veut dire qu'il a envie d'éclairer, je pense, sa mère, ou d'expliquer aussi ce silence, dans un pays de lumière, pourtant. Donc il cherche toujours à mettre en lumière, à rendre les choses évidentes, à nous faire comprendre l'homme, l'humain. Je crois que c'est le cas dans la chute. C'est pas simplement de dénoncer, c'est pas juste dénoncer la chute, dénoncer l'hypocrisie, etc.
C'est pas de l'humanitaire.
Faire en sorte, je crois que non, ce qu'il souhaite au fond, Camus, il y a quelque chose, vous savez, il a une tentation... mystique, quelque part. Il a toujours résisté à ça, mais il y a cette tentation, on le sent dans la chute. Il s'interroge beaucoup. Et ce serait de dire, peut-être qu'avec ce que j'écris, je vais pouvoir, en amenant la lumière sur les choses, aider les hommes à faire le bien.
Il a
plutôt que le mal.
Une quête de rédemption, d'une forme de rédemption pour l'humanité.
Peut-être.
D'où son surnom de Saint Laïc, c'est ça.
Certainement.
Comment pourrait-on la qualifier, cette œuvre pleine d'humanité, pleine de morale? Ça me fait penser à deux choses à l'instant, pour répondre à ce que je dis même. La morale, Isa, il y a une phrase pour toi qu'a écrit Camus. Deux choses, j'ai dans les mains l'album Camus de la Pléiade, ce sont des beaux volumes, 82, c'est peut-être un petit peu ancien. Il commence avec une phrase mise en exergue de William Faulkner. La voie qu'il a prise conduisait à la lumière du soleil. Et ensuite, quand commence le texte lui-même, je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil. Écrit Albert Camus dans L'envers et l'endroit, son premier livre, et puis ça la continue. Et ensuite, Isa, la phrase pour toi, pour revenir à cette idée de morale, parce que là, à l'instant, ce que je citais, c'était davantage sur la lumière, puisque Jean-Marc Galera, vous soulignez la clarté, enfin, du moins une pureté. Non, pas tant pureté, on n'a pas prononcé ce mot, mais on pourrait peut-être l'évoquer. Isa, regardez, écoute ça. Le peu, pour moi, je n'ai connu que dans le sport d'équipe, au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match fictif. Ou perdu, vraiment, le peu de morale que je sais, je l'ai appris sur les terrains de football et les scènes de théâtre qui resteront mes vraies universités, déclare-t-il à la télévision en 1959, donc c'est l'époque de ce prix Nobel. Donc il accorde certes de l'importance au match de foot, vous retirez-vous ça du spectacle, puisque il est indiqué ensuite dans cet album de la Pléiade, les matchs du dimanche, enfin le héros de la chute affirme, les matchs du dimanche dans un stade plein à craquer et le théâtre que j'ai aimé avec une passion sans égale sont les seuls endroits du monde où je me sens innocent.
Ça c'est une citation de la chute, ça.
Voilà, exactement, c'est ce que dit cet album de la Pléiade. Donc le foot, laissons l'autre côté, mais la morale, oui, cette œuvre serait... Il y a de l'humanité, certes, mais une volonté peut-être aussi moralisatrice ou... Non, c'est pas moralisateur. C'est... D'ailleurs, c'est toujours le problème de ces moralistes du XVIIe siècle. Ce ne sont pas des moralisateurs. C'est pas ça.
En un seul mot, démoralisateur, oui.
Ils démoralisent. Est-ce qu'on se laisserait, Gérald, quelques instants de réflexion? On écoute une vidéo?
En tout cas, le sport est une école de vie. Ça, il faut le dire. C'est évident dans sa plus belle version.
Juste une chose par rapport aux moralistes, parce que c'est intéressant, évidemment. Mais Camus n'est pas un moraliste. Hein. En l'occurrence, c'est un romancier. C'est de façon romanesque qu'il nous amène à réfléchir, alors que les moralistes nous le font à grands coups de sentences, si vous voulez.
Ou de dogmes.
Bon. Gérald, qu'est-ce qu'on écoute pour faire un petit moment
On va peut-être écouter une autre affaire intéressante. J'ai cherché, pour vous avouer, des chansons qui tournaient un peu autour de la magistrature, etc., des avocats, des juges. Alors le gorille, c'est un peu téléphoné. En même temps, tout à l'heure, j'ai entendu le mot gorille dans ton album. Il a prononcé le mot gorille de Mexico City.
Oui, c'est le tenancier du bar. Oui.
Un des chefs-d'œuvre de Georges Brassens. C'est une histoire intéressante sur la duplicité de la justice et sur la peine de mort. Et il y a un autre titre très très connu qui a été très célèbre à l'époque, 1975, Maxime Le Forestier, autour de l'affaire Pierre Goldman. Donc c'est aussi un personnage très ambigu, Pierre Goldman, par son engagement, par son mélange de violence et en même temps d'engagement militant. C'est la vie d'un homme, parce qu'il a été incarcéré, accusé de crimes qui, visiblement, n'avait pas commis. Donc c'est toute une manipulation politique et il a été finalement assassiné, sans doute, on pense, par le SAC ou de l'époque, ou des courants d'extrême droite. En 79, il est mort 4 ans plus tard. Et il y a eu beaucoup de gens de l'époque qu'on connaît tous, les gens d'aujourd'hui qu'on connaît, les Régis Debray à l'époque, les Sartre, et plein de gens qui l'ont soutenu. Et bon voilà, Maxime Le Forestier a écrit une chanson qui s'appelle La vie d'un homme sur Pierre Goldman, en hommage à Pierre Goldman, qui est le demi-frère de Jean-Jacques d'ailleurs, mais qui n'avait pas encore commencé sa carrière à l'époque. Enfin,
À ceux qui sont dans la moyenne, à ceux qui n'ont jamais volé, à ceux confession chrétienne, à ceux d'opinion modérée, à ceux qui savent bien se plaindre, à ceux qui ont peur du bâton, à tous ceux qui n'ont rien à craindre, je dis que Pierre est en prison. Dormez en paix, monsieur le juge, lorsque vous rentrez du travail, après le boulot de déluge, tant pis pour les petits détails. Aujourd'hui, cette affaire est close, une autre attend votre réveil, la vie d'un homme. Peu de choses à côté. votre sommeil. Soyez contents, jurés notables, vous avez vengé proprement la vie tristement respectable que vous meniez depuis longtemps. Qu'on vous soit différent suppose par obligation qu'on ait tort. La vie d'un homme est peu de chose à côté de votre confort. Soyez satisfait, commissaire. Vous n'avez pas été trop long à mettre un nom.
Ah, désolé, on a chanté quand même un tube. Vous pourrez le réécouter, hein, c'est l'album, je crois, Caricature, un album mythique de 75 de Maxime Le Forestier, où il y a aussi Saltimbanque, La Poupée, L'Irresponsable. Voilà, et on écoutait donc La Vie d'un homme, hein, dédié à Pierre Goldman, pour de 4:48. Minutes, si vous voulez en plus en savoir, on mettra un lien sur l'affaire Pierre Goldman qui est très très compliquée, on peut pas en parler maintenant. En tout cas, il y avait peut-être un point commun avec la duplicité des gens, avec l'engagement politique qui peut mal tourner et la politique.
Encore à peu près 5 minutes pour cette fin d'émission. Et alors, avec qui sommes-nous maintenant ? Est-ce bien Jean-Marc Galera ou bien plutôt Jean-Baptiste Clamence ? Pourquoi ce nom ? Parce que Jean-Baptiste Clamence est le personnage principal, celui qui est seul sur la scène de l'espace 44 pour la pièce La Chute. Vous souhaitiez éventuellement alors Gérald ou Jean-Baptiste ?
Notre invité a reçu ça aussi dans sa boîte aux lettres il y a un mois. J'étais très, très, très effaré de recevoir ça dans ma boîte aux lettres il y a un mois. On parle tous de la même chose. Enfin, beaucoup parlent des mêmes choses. Mais j'ai trouvé un petit prospectus dépliant, une fois les affaires révélées sur notre cher candidat de l'alternance, cette alternance que tout le monde désire vraiment. Et on voit la tête donc, et on voit cette phrase magnifique de Monsieur Fillon. Parce que je dis plus Fillon, je dis Mitterrand, donc maintenant j'ai décidé de dire Fillon et plus Fillon. Donc rendre les sanctions pénales rapides et dissuasives. Voilà. Pour en finir avec le laxisme instauré par la gauche.
Et alors, il y a une remarque cette semaine sur sa richesse.
Savez-vous pourquoi ils cherchent tous à être riches ?
Non.
Parce que la richesse soustrait au jugement immédiat. La richesse, ce n'est pas encore l'acquittement, mais le sursis. Toujours bon à prendre, non ?
Voilà l'actualité de la pièce.
C'était vraiment Jean-Baptiste Clamence que nous avions avec nous, puisque c'est une phrase donc tirée de du récit de Albert Camus, 1956, La Chute, adaptée par Régis Guérard ainsi que Jean-Marc Galera. La presse en parle bien de ce spectacle.
Ah bah oui, hein, bon, pour une fois on va citer Le Dauphiné Libéré et Le Progrès. Une brillante performance d'acteur, on ne va pas dire le contraire, qui nous entraîne dans un flamboyant face-à-face avec la puissance vertigineuse du texte de Camus, Le Dauphiné Libéré. Enfin, on vibre à l'écoute de ce réquisitoire savamment construit, porté par la langue d'Albert Camus parfaitement ciselée. Elle s'offre à l'interprétation de Jean-Marc Galera, qui se régale de sa théâtralité tout en restant parfaitement juste. Le Progrès de Lyon. C'est des beaux compliments qui sont justes, à mon avis. C'est notre compliment à nous.
Merci.
ne forcez pas trop votre voix, Jean-Marc Galera. Allez, encore 3-4 minutes. 3-4 minutes. Moi, je souhaitais dire qu'à l'Opéra, il y a le Festival Mémoire qui va arriver. Mais bon, il y a beaucoup d'opéras, beaucoup de choses. C'est un peu compliqué peut-être d'en parler très nettement. Tristan et Isolde, mardi prochain. Electra va commencer dans les jours à venir. Il y a aussi le couronnement de Poppée, dont nous parlions début janvier avec le chef d'orchestre Sébastien Derain, qui dirigera les musiciens de l'Opéra de Lyon. C'est au TNP, c'est délocalisé dans un théâtre. Il dirigera seulement pour 3 dates cet opéra, l'un des premiers de l'histoire de l'opéra, le couronnement de Poppée de Monteverdi. Ensuite, Electra et Tristan, mais allez voir le blog peut-être plutôt, parce que parler de l'opéra comme ça, là, trop rapidement, c'est un peu dommage.
Puisqu'on est dans l'histoire de justice, d'avocat, de juge pénitent, j'invite, comme d'habitude, comme souvent je le fais, ils n'ont pas besoin de publicité, mais c'est pas grave, parce que c'est un journal intéressant à lire au soleil, avec un beau poème, Le renard jugé par un autre, et un grand entretien du magistrat et aussi chroniqueur sur France Culture, Antoine Garapon, donc avec un début de texte. Numéro 1, Fillon a montré qu'il ignorait ce qu'est le droit, comme si le droit privé et la justice n'existaient pas dans son horizon mental et politique. ça donne envie de lire la suite.
T'as pas fait tout à l'heure assez bien, tu n'as pas assez amené, il me semble, Gérald, la phrase qu'ensuite Jean-Baptiste Clamence a prononcée sur, t'aurais pu revenir le scandale, quoi, c'était dimanche, lundi, les costards, les costumes de Fillon.
Ouais, d'accord, mais des costumes
de Roland Dumas. Non, mais qui sont extrêmement, qui sont très chers, très onéreux, et donc il y a un goût de la richesse, et la richesse, voulez-vous savoir pourquoi ils souhaitent tous être riches, c'est parce que, voilà, il y a une forme de...
Et puisqu'on est sur Radio Canu, on essaie d'être un peu dans la mutinerie intellectuelle, hein, au moins intellectuelle, c'est déjà
il
le début
ans,
de la santé mentale.
1917.
Parce que la France, il y a une France qui pense avec un A et un E. Et bon, on a aussi encore de l'espoir, il reste encore 40 jours. La France pense. 1917, le temps des mutineries, un XXL, donc un hors-série avec une magnifique affiche de Tardy. Je rappelle, Tardy a refusé la Légion d'honneur sous le président Sarkozy. Pourtant, Dieu sait s'il la mérite. Donc voilà, c'est une belle affiche que je montre à
Camus l'a refusé,
dans les studios.
Camus,
et Camus
l'a refusé.
Refusé aussi. C'est un de leurs points communs. Si vous voulez décorer des salles de cours, hein, monsieur l'ex-professeur de mathématiques, vous avez une très belle affiche de Tardy. Un numéro spécial consacré au mutin de 17.
Ce n'est pas tout à fait visuel, mais je mettrai l'entrée sur le
Hollande
blog.
Hollande a réhabilité au moins en termes de mémoire. Ce qui n'est déjà pas si mal.
D'accord. Bon, j'indiquerai ça.
Et qu'on trouve...
On trouve dans tous les kiosques, tous les mercredis. Voilà.
Oui, ça c'est un hors-série, enfin, c'est un numéro spécial.
On en fera sur l'ethnologie bientôt.
Jean-Marc Galera, vous nous dites que fin mars, ce n'est pas une actualité tout à fait pour vous, mais c'est en tout cas à Lyon, à l'espace 44, Annette Benedetti.
Qui est ma compagne, hein, il se trouve. Mais que,
ah, il faut le dire maintenant.
Mais c'est avec elle, c'est avec elle que j'ai créé le Théâtre de l'Accalmie.
Et Zoom.
Et nous avons créé une pièce de Gilles Granouillet, auteur de Saint-Étienne, qui s'appelle Zoom, qui est la parole d'une mère, la mère d'un enfant difficile. Voilà, c'est une pièce qui fait le grand écart permanent entre le cocasse et le poignant.
Est-ce que il y a un peu de la chute dedans?
Oui,
enfin,
mais
c'est un peu moins c'est poignant.
Ça doit être un peu ma signature. Et voilà, donc j'ai dirigé Annette dans ce travail. Et je vous invite à venir voir ce spectacle à l'espace 44 entre le 27, je crois que c'est le 28 mars au 2 avril.
Mardi 28, mercredi 29, voilà. Très bien. Oh, mais c'est sur une semaine jusqu'au dimanche.
Et début avril.
La même chose que
alors,
que la chute.
On ira voir et on en parlera peut-être. À défaut d'inviter votre compagne.
Auditeur, générique de fin. Nous, il est 14h59, c'est très bien. Je crois bien qu'aujourd'hui, Pascal, pour le Blues des Canus, a un petit peu de monde. Il me semble apercevoir tout un tas de jeunes têtes dans la salle à côté du studio. Gérald.
Ne ratez pas l'émission de la semaine prochaine. Nous aurons une émission spéciale culture culinaire. Ça sera une grande première sur nos ondes.
Non, le 22 ou le 29 tu vas trop vite. C'est le 22? Ah d'accord, ouais, je me trompe.
C'est la semaine prochaine.
C'est le 22, 4.
Alors, c'est une émission surprise. Donc, je vous invite à écouter cette émission. C'est la première fois qu'on va faire ça. On va voir ce que... Bon, il y aura une programmation musicale adaptée à la question.
T'en fais tout un fromage. Isa, oui, un autre mot?
Non, en fait, je voulais juste savoir qui sera la personne, d'ailleurs.
Surprise.
On va te dire ça, Gérald. Auditeur, restez à l'écoute des programmes de Radio Canu. Et puis, si vous pouvez le faire aussi, allez, donc, c'est en début de soirée, 19h30. La chute, espace 44, c'est juste à côté de chez nous, hein, la rue Burdeau, c'est juste un peu plus... On l'a pas indiqué, hein, espace 44, la rue Burdeau. C'est sur les pentes. Restez à l'écoute aussi de tous les autres programmes de Radio Canu. Sortez le soir, sortez, il fait beau et chaud ce jour-ci, c'est agréable. Bon après-midi à tous. Méga Combi arrivé tout à l'heure à 18h. On n'arrête pas le prog à 17h. Blues des Canu à 15h. Et puis Canu Info à 19h. Merci Gérald. Merci Jean-Marc.
Merci à vous.
Merci Isa.
Salut
tout le monde. Ciao tout le monde, bye.